Normal, pas normal. Et si on en parlait ?
Eh oui, il faut bien, évidemment, qu'on puisse en parler. Et là, du coup, dans quelques instants, nous allons ouvrir le téléphone, le 27 225 49 880, pour que vous puissiez, bien évidemment, intervenir. Voilà, nous sommes en compagnie de Monsieur Jean-Christophe Béliard, ambassadeur de Côte d'Ivoire, ambassadeur de France en Côte d'Ivoire. Voilà, je suis parvenu. Voilà, excellence, nous allons revenir encore un tout petit peu sur la question de la sécurité. On en parlait. En Côte d'Ivoire, il y a la création de l'Académie internationale pour la lutte contre le terrorisme qui a été mis sur place. Et ça aussi, ça contribue. Il y a un effet dissuasif aussi en termes de sécurité.
L'Académie, d'abord, c'était quand même bien vu il y a 3 ans.
Tout à fait.
D'imaginer qu'il fallait la créer. Parce qu'elle sort de terre maintenant au meilleur moment. Alors, il faut savoir que cette académie, c'est pas uniquement une académie ivoirio-française.
C'est ça.
C'est une académie qui concerne l'ensemble de l'Afrique. Les cours, parce qu'il y a des cours, se font en français, en anglais, en arabe et en portugais. Autre chose sur l'académie qui est importante, c'est que elle est financée par le monde entier. Il y a eu à Paris, le 12 juillet, une conférence de donateurs. Elle était co-présidée par le ministre d'État, ministre de la Défense ivoirien. Elle a collecté des fonds. Et il y a des fonds qui viennent du monde entier, notamment de l'Union européenne.
Okay.
La question de la sécurité, c'est une question mondiale. C'est une question globale. L'ennemi, les terroristes, Daesh, et Al-Qaïda, ça concerne le monde entier.
Tout à fait.
Il y a 10 ans, c'est des mouvements qui étaient implantés au Proche et au Moyen-Orient. Aujourd'hui, ils sont en Afrique. Quand ils étaient au Proche et au Moyen-Orient, il y a une coalition mondiale pour les combattre. Eh bien, ici, c'est la même chose. Et l'Académie, c'est ça. Ensuite, l'Académie, c'est 3 piliers. Il y a un pilier de recherche, d'analyse, avec des chercheurs qui réfléchissent, c'est quoi le terrorisme, c'est quoi les ressorts du terrorisme. Il y a un deuxième pilier qui est un pilier entraînement, des forces spéciales. Et là, il y a des espaces où les soldats ou les gendarmes peuvent s'entraîner. Et puis 3, c'est tout ce qui est judiciaire. Vous savez, quand vous arrêtez un terroriste, vous n'allez pas le liquider, ça n'existe pas, vous l'arrêtez. Ensuite, il faut collecter des preuves et ensuite, il y a tout un processus au tribunal. Donc, on travaille aussi là-dessus. Voilà, c'est tout ça, l'Académie. Et j'ai envie de dire, elle tombe vraiment au bon moment parce que dès aujourd'hui, il y a des formations, des stages. Et ce qui est important, c'est que vous avez des soldats des pays de la région qui s'entraînent ensemble. Or, aujourd'hui, pour combattre le terrorisme, il faut travailler ensemble. Côte d'Ivoire, avec le Ghana, avec le Burkina, avec le Togo, avec le Bénin, ensemble, pour pouvoir se coordonner et combattre le terrorisme, notamment en ce moment, dans la partie sud du Burkina Faso.
Parfait. Lynn Begré est avec nous aussi, qui a une préoccupation.
Je rebondis un peu sur la question. Monsieur l'ambassadeur disait, la lutte contre le terrorisme ne peut se gagner qu'en travaillant en synergie. Est-ce que cette synergie-là, le dernier message qu'envoie le Mali, récemment avec l'affaire des 49 militaires, ne vient pas justement en porte-à-faux de ce message, on va dire, de on veut fédérer nos énergies, on veut fédérer nos forces. Est-ce que ça ne vient pas créer une certaine sorte de rupture?
Le comportement des autorités maliennes en ce moment n'est pas simple. Ils ont choisi un chemin différent des autres. Jusqu'à présent, la communauté internationale unie était active au Mali. Il y avait la France, avec Barkhane. Il y avait 2, les Européens, avec quelque chose qui s'appelle Takuba, c'est-à-dire des forces spéciales européennes qui se battaient avec les forces spéciales maliennes. Et 3, les Nations Unies, qu'on appelle la MINUSMA. Aujourd'hui, les colonels maliens qui ont pris le pouvoir...
Assimi Goïta, pour le nommer.
2 coups d'État. Il y a eu 2 coups d'État. Aujourd'hui, on choisit... un chemin différent. Ce chemin, c'est de faire, au fond, sans la communauté internationale, sans la France, sans les Européens. Ils ont demandé aux Européens de partir. Et on voit en ce moment l'affaire des 49 soldats ivoiriens, en fait, concerne la force des Nations Unies. L'objectif, c'est de compliquer le travail des Nations Unies. Et à l'arrivée, on va se retrouver avec des colonels maliens qui vont se retrouver en tête à tête avec une organisation privée qui s'appelle Wagner.
Tout à fait.
Et maintenant, la question, c'est de savoir est-ce que cette collaboration avec ce nouveau venu qui est Wagner va permettre aux Maliens de résoudre leurs problèmes de terrorisme. On peut se poser la question, vous avez vu ce qui s'est passé il y a quelques jours, où il y a eu une intrusion, une attaque terroriste à Kati, c'est-à-dire...
Une base militaire importante du Mali, en tout cas.
C'est pas une base militaire, c'est Bamako. C'est-à-dire qu'ils sont aujourd'hui à Bamako. L'attaque a eu lieu à 200 mètres de l'endroit où habite le colonel Goïta. Est-ce que les autorités maliennes vont faire face avec ce nouveau soutien? Nous, on ne peut que l'espérer. Puisque nous, ce qu'on souhaite, c'est la stabilité du Mali. Je pense que la Côte d'Ivoire ne peut que l'espérer, puisque la sécurité du Mali aura des répercussions sur la Côte d'Ivoire. Simplement, à ce stade, quand on voit l'évolution des choses depuis quelques mois, en fait, depuis qu'il y a eu les deux coups d'État, le nombre de civils qui ont été tués au Mali a augmenté de manière considérable. Et on peut se poser la question de savoir si les autorités maliennes, avec leurs nouveaux amis, seront capables.
Lesquelles autorités maliennes nient de façon très claire qu'il n'existe pas justement de Wagner sur leur territoire.
Oui, enfin, je pense que là, c'est un secret
de
Polichinelle.
Il n'y a pas une voix officielle qui se soit levée pour dire effectivement, il y a sur le sol malien les forces russes Wagner.
Mais alors, on peut dire que ce sont des forces de Wagner. On n'est pas obligé de dire que c'est des forces russes, parce que ce n'est pas la Russie en tant qu'État. Les autorités russes nous disent, nous, on n'a rien à voir avec Wagner. Là, on peut se poser des questions. Ce que je peux vous dire, c'est que Wagner a été utilisé au Mozambique contre des terroristes qu'ils ont échoué. Ils sont partis. Ils ont été remplacés par les Rwandais qui font du bon travail. Ils sont aujourd'hui, depuis quelques années, en Centrafrique, où la situation sécuritaire s'est dégradée et où ils ont mis la main sur les richesses du pays, notamment toutes les mines, parce que c'est une société privée qui est là pour gagner de l'argent. En échange d'une protection, ils mettent la main sur, en RCA, République Centrafricaine, les recettes douanières, et puis tout ce qui est mine. Donc, c'est vrai qu'on peut se poser des questions sur ce qui va se passer au Mali. Seront-ils capables de faire face? Je ne réponds pas à cette question, mais je me la pose.
Ok. Justement, on est persécuté par le temps. C'est vrai que là, il nous faut encore marquer une pause. Et là, dans la dernière partie de l'émission, chers auditeurs, vous allez nous appeler au 27 225 49 880. C'est vrai que la question, justement, de la sécurité nous intéresse à un plus haut point. On doit dérouler toute l'étendue, évidemment, de notre interview. Oui,
alors, Lina. Moi, ma question, elle ne sera pas dans le cadre sécuritaire ou encore... je vais parler de la première question. Je serai plus côté immigration et visa pour moi, parce qu'il ressort aujourd'hui que les conditions sont vraiment difficiles pour les citoyens ivoiriens quand ils arrivent au service pour obtenir leur visa. Qu'est-ce que vous pouvez me dire là-dessus?
Aujourd'hui, nous délivrons à peu près 400 visas par jour, ce qui est quand même beaucoup. Les services qui s'occupe de ça. Surtout maintenant, on a eu pendant un an et demi beaucoup moins de départs parce qu'il y avait le Covid, c'était difficile. Et en ce moment, il y a une espèce de rattrapage. Tous ceux qui n'ont pas pu aller en France veulent y aller maintenant. Et donc, c'est vrai qu'en ce moment, c'est un peu, surtout là maintenant, juillet-août,
c'est une vraie ruée.
Une sorte de tsunami au service qui s'occupe de ça. C'est deux choses, hein. C'est un service qui s'appelle VFS.
D'accord.
Où les gens déposent leur visa et ensuite le consulat qui valide. Donc on est au maximum de nos efforts. Il y a un taux de refus qui est très faible. Simplement, c'est vrai que comme il y a beaucoup de demandes, c'est pas simple. Moi, je suis souvent contacté, des gens qui m'appellent, qui me disent « Je dois aller en France, j'ai fait la formule sur Internet et on me donne un rendez-vous début septembre. C'est trop tardif. » Alors, c'est aussi les gens, parfois, qui s'y prennent un peu au dernier moment. Donc, il faut voir, d'un côté, la masse de dossiers qu'on a à traiter et on les traite. Vraiment, je voudrais rendre hommage à nos équipes. C'est vraiment un sacré travail. 400 visas par jour. Donc, on y arrive. Mais il y a quand même très peu de refus.
Excellent sur le refus, justement. Certaines personnes estiment que c'est une question de privilège. Il y a une certaine classe de personnes, évidemment, qui est privilégiée au détriment d'autres. Puisque vous êtes là ce matin, il faut aussi que vous nous éclairiez, bien évidemment, là-dessus.
Si tu permets, je vais poursuivre avec ma question. Parlons toujours du refus de l'obtention du visa. En dehors des critères et autres, les raisons qui sont avancées la plupart du temps sont un peu, on va dire... frustrante ou rabaissante pour certains.
Je peux comprendre ça. Et effectivement, moi, je suis sollicité sur des refus et je dis, mais je ne comprends pas pourquoi il y a un refus. Moi, j'attribue le refus beaucoup au surmenage. Et en ce moment, moi, je suis en train de me battre. Je l'ai encore fait hier. Pour obtenir plus d'effectifs. Il se trouve, en ce moment, on n'a pas de chance parce qu'il y a des machines au service VFS. Il y en a plusieurs qui sont en panne. Et donc, ça allonge les délais. Mais ce que vous dites, j'y attache beaucoup d'importance. La question du respect des gens et les raisons qui sont données. À mon avis, ce n'est pas un problème de mauvaise volonté et de fond. C'est plutôt parce que dans la précipitation, il y a des dossiers qui sont peut-être moins bien gérés que d'autres. Et moi, j'attache beaucoup d'importance à ça. Je voudrais qu'on trouve une solution. Hier encore... j'ai contacté Paris en leur disant il faut absolument remplacer ces machines qui sont défectueuses. Et elles sont défectueuses parce que c'est celles qui prennent les empreintes. Elles sont défectueuses parce qu'il y a eu tellement de demandes. Et là, on me dit qu'il y a une machine qui arrive. C'est l'imprimerie nationale en France qui les fournit. D'accord. Il y a une machine qui arrive là cette semaine, ce qui va faciliter les choses. Mais ensuite, il y a un problème, mais c'est à nous de le résoudre, d'effectif. Si vous avez trop peu de personnes avec un tsunami de demandes, il y a des loupés. À un moment donné, quelqu'un, à un moment de la journée, peut dire « Allez, bon, ce dossier, il passe pas. » Je me mets vraiment à la place de ceux qui reçoivent une réponse en disant « C'est non », sans véritable raison. Et moi, il y a des retours qui me sont faits d'étudiants qui vont en France, des gens qui vont pour des soins médicaux. Il faut résoudre ces problèmes.
Ça le mérite, bien évidemment, d'être clair. Petite pause encore. Tiens, on aurait souhaité ne faire que discuter, mais bon, il y a des contraintes, et bien il faut s'y soumettre, c'est aussi ça, bien évidemment, le métier. Petite pause, et puis derrière, on se retrouve pour continuer notre entretien ce matin.
Normal, pas normal. Et si on en parlait ? Life Radio 107.7, ta radio comme tu l'entends.